week-end se tiendra à Brest, en fait, très précisément les 13 et 14 octobre. À Brest, donc, ce colloque science éthique ou le devoir de parole, organisé par le comité scientifique, donc, avec pour thème cette année la biodiversité du littoral. Et ça va se passer à Océanopolis, à Brest. Nous avons pour en parler en direct avec nous Franck Zahl, qui est docteur en biologie marine à la station biologique de Roscoff, d'une part, et Michel Segonzac, qui est du centre de Brest, du centre Ifremer, qui se trouve à Brest. Alors, bonjour messieurs, merci d'être en direct avec nous pour nous parler de ce sujet assez complexe.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. C'est Michel Segonzac que j'ai en direct et Franck Zahl, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, Michel Segonzac, il faut savoir que les océans couvrent 70% de la surface de la planète et l'environnement côtier et marin comprend divers habitats contenant de multiples espèces, et d'où la biodiversité. Est-ce que la biodiversité marine est plus importante donc que celle qui est terrestre, Michel Segonzac?
Oui, le concept de biodiversité est assez difficile à cerner parce que on comprend bien sûr le nombre d'espèces, c'est la première des choses, mais aussi il y a le nombre d'habitats dans lesquels elles vivent, il y a aussi la variabilité génétique de chaque espèce, de chaque individu. Alors, si elle est plus riche, ça dépend des endroits. Mais on connaît des endroits, même dans le domaine abyssal, où on estime que la diversité est comparable à celle qu'on connaît de la canopée, c'est les canopées sur les forêts tropicales équatoriales.
Oui. Alors donc, est-ce qu'on peut la recenser aussi facilement que vous le dites maintenant?
Alors, le recensement, nous y travaillons depuis très longtemps. Là, on a quelques estimations, si vous voulez. Dans le domaine marin, on estime à peu près à 250 000, une moyenne grossière, 250 000 espèces déjà décrites. Mmh. On estime aujourd'hui qu'on peut en décrire à peu près 1500 par an. Mais là où ça devient difficile, c'est les chercheurs qui ne sont pas d'accord sur les estimations de tout ce qui reste à décrire. C'est entre 1 million ou 10 millions d'espèces qui pourraient encore être décrites dans le milieu marin. Mmh. Et pour la dernière estimation, au nombre de chercheurs, de taxinomistes qui donnent un nom à ces animaux, dans le monde aujourd'hui, les estimations sont entre 500 et 1000 ans qu'il faudrait pour arriver au bout de ces identifications.
Ouais. Alors, voyez. On a du temps.
Oui, tout à fait.
Alors, Franck Zahl, vous êtes docteur en biologie. Comment fait-on pour étudier cette biodiversité? Elle est parfois microscopique, elle est parfois plus importante. Comment la découvre-t-on? Comment travaillez-vous dans ce milieu?
Alors la biodiversité, oui, donc vous avez raison, la biodiversité ça peut être donc des grosses espèces, donc ce qu'on appelle la macrofaune, ou également donc tout ce qui est microbe, donc tout ce qui est autour de la microbiologie. Donc il y a différents moyens de l'étudier, mais je voudrais juste faire un petit rappel. Lorsque l'on parle de biodiversité, il ne s'agit pas que d'un concept de dénombrement d'espèces, c'est-à-dire que la biodiversité ne peut pas être on peut pas faire abstraction de l'environnement dans lequel ces espèces vivent. Mmh. Et donc nous personnellement, dans mon laboratoire, on étudie la biodiversité sous un angle de fonctionnement, en fait, sous un angle ce que l'on appelle de l'écophysiologie. Et on essaye de comprendre comment une espèce est présente dans un environnement, et en étudiant en fait la physiologie donc des processus du métabolisme de ces animaux. Donc nous, on utilise donc différents instruments, hein. Ça peut être des microscopes, ça peut être donc des gros instruments comme la spectrométrie de masse, ça peut être différents moyens de biochimie, et donc par ces petites approches, c'est-à-dire qu'on va progresser pas à pas dans la compréhension du métabolisme d'un organisme, et c'est par ces approches, à petits pas, qu'on arrive à comprendre comment une espèce vit dans son environnement, donc dans la biodiversité que l'on peut trouver dans le milieu marin.
Oui. Alors il y a cette biodiversité qui existe près des sources hydrothermales, c'est-à-dire en grande profondeur, qui est peut-être à la mode aujourd'hui. On en parle beaucoup de ces chenilles, de tout ce qu'il y a au fond, de ce Kiwa hirsuta, c'est la galette Kiwa hirsuta par exemple. Ça nous frappe suffisamment parce que c'est assez gros, c'est assez nouveau, on l'a jamais vu. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'espèces que vous pouvez étudier, que vous avez étudiées, Franck.
Oui, oui, tout à fait. Donc, je suis pas la personne la mieux placée pour parler pour parler de l'espèce de Galatée, donc décrite, donc découverte pour la première fois par Michel Segonzac. Mais par exemple, nous, on étudie des vers géants qui sont des Rhystia. Donc, c'est vraiment des vers géants, donc qui peuvent faire plusieurs mètres de haut et donc qui ont donc tout à fait en fait un mode de fonctionnement à part entière, c'est-à-dire que c'est des vers qui n'ont pas de bouche, pas de tube digestif, mais ils vivent comme des plantes et en fait ils se nourrissent de gaz. Et donc nous on essaye de comprendre comment ce processus de physiologie est possible autour de ces sources hydrothermales. Et donc comme je vous disais, par des approches de biochimie, on arrive à comprendre, à décortiquer les mécanismes qui nous expliquent la présence de ces animaux, donc à essayer de comprendre l'adaptation de ces animaux dans leur environnement.
Oui. Alors est-ce que Michel de Segonzac, est-ce que justement le réchauffement de la planète fait que certaines espèces disparaissent, d'autres apparaissent? Quel est ce fonctionnement? Quel est l'impact de ce changement climatique? Est-ce que vous pouvez l'étudier ou alors ça n'a pas énormément de conséquences?
Bon, alors ça c'est encore un sujet très, très brûlant parce que dans notre domaine d'étude dans le milieu profond, on ne peut pas dire qu'il y a un effet direct.
Oui.
Ça se passe dans l'atmosphère, au niveau des eaux de surface. Mais donc dans le milieu profond, on ne peut pas dire qu'il y a un impact direct. Ceci dit, lorsque on voit que on peut modéliser aujourd'hui la quantité de carbone, de gaz carbonique qui est un peu à l'origine de ces gaz à effet de serre. Ce qu'on peut ajouter, qu'on oublie un petit peu, parce que toujours pareil, les études sont en cours, mais vous voyez, ces sources hydrothermales, ce qu'on appelle ces fumeurs noires, on oublie peut-être aussi que notre planète, hein, qu'on essaie de sauvegarder, pour les générations futures, mais enfin, on oublie que l'homme n'est pas le seul à polluer, elle-même pollue en quelque sorte, même si elle peut avoir un système de régulation, mais les fumeurs noires débitent à longueur de temps et depuis des millions d'années sur les fonds océaniques au niveau des dorsales, hein, il y a quand même 60 000 kilomètres de dorsales le long de la planète, et qui, alors ce n'est pas fait de plante en place, certes, mais on ne sait pas encore quelle est la quantité que ces sources hydrothermales, ces fumeurs, débitent on sait qu'ils sont chargés en métaux lourds, en composés toxiques, du cadmium, du plomb, du mercure, du soufre, etc. Donc, il y a bien un système de régulation de l'eau de mer qui est quand même dans des quantités considérables, mais pour dire que il est difficile aujourd'hui de je ne nie pas la nécessité aujourd'hui d'une urgence qu'il y a pour que l'homme fasse attention à ses émissions de carbone. Mais il faut tout prendre en compte, me semble-t-il, pour essayer de mieux prévoir ce qu'il y a lieu de faire, même s'il est vrai que nous sommes dans l'urgence.
Oui, bien sûr. Alors, cette recherche autour de la biodiversité, est-ce qu'elle est si importante que cela? Est-ce que ça peut nous apporter quelque chose à nous, êtres humains? Est-ce que on peut, je sais pas, déceler, par exemple, une façon de mieux nous soigner aujourd'hui, trouver quelque chose de tout à fait nouveau et d'intéressant pour l'être humain en tant que tel? On vivait sans ça auparavant.
Oui, totalement. En fait, il faut aussi voir le phénomène de biodiversité comme quelque chose qui peut servir à l'homme. Donc c'est pas uniquement donc une description, comme je le disais, d'espèces. Par exemple, il y a dans des organismes marins des molécules qui pourraient être des molécules donc qui pourraient avoir un intérêt en biotechnologie. Et par exemple, à Roscoff, il y a des personnes qui travaillent sur des molécules issues d'organismes marins qui ont des intérêts au niveau cancérologie, par exemple. Donc c'est clair que protéger la biodiversité, c'est protéger cette source de molécules avec un intérêt thérapeutique pour les hommes, quoi.
Oui. Alors vous avez présenté tout cela à Brest, c'est cela, avec bien sûr lors de ce colloque, mais vous serez aussi à la rencontre de visiteurs. Vous êtes aussi les parrains du premier entretien sciences éthiques junior, c'est ça? Oui, tous les deux.
Oui, tout à fait. Oui, non, il y a pas mal de chercheurs, bien sûr. Nous sommes plutôt dans le domaine profond, il s'agit là de biodiversité littorale, mais nous essayons de voir le lien général qu'il y a. Mais Franck est également un spécialiste des vers peu profonds et il est là.
Je viendrai en parler donc, à ces rencontres.
Très bien. Donc, des jeunes qui pourront découvrir ce que sont ces entretiens sciences et éthiques.
Si vous voulez, je peux vous
Une seconde.
Donc, en fait, il reste encore en fait, des places disponibles. Donc, il y a un site internet qui s'appelle www.science-éthique.org. Donc, les jeunes qui sont intéressés peuvent encore s'inscrire.
Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette information. Et puis, beaux entretiens donc à Océanopolis et au Quartz à Brest. Merci, messieurs. Au revoir.